Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur les ondes de Bac FM pour évoquer bien sûr toute la programmation qui est en cours cette semaine et puis un petit peu plus loin dans le temps à la Maison de la Culture de Nevers Agglomération, la Maison comme on l'appelle, et scène conventionnaire en territoire. C'est-à-dire qu'elle est missionnée de cette lourde tâche qui nous incombe et qui est très agréable malgré tout, bien sûr, de proposer des spectacles sur le département, un petit peu partout sur le département. Et cette mission de service public qui est la nôtre, eh bien, on est en plein cœur de cette mission cette semaine, en l'occurrence avec un spectacle qui va avoir lieu encore jusqu'à dimanche après-midi, en l'occurrence un spectacle qui s'intitule « L'amour n'a pas d'âge ». Et « L'amour n'a pas d'âge », eh bien, c'est un spectacle en l'occurrence du théâtre de l'Échappée Belle, qui est une proposition qui va relater, vous l'avez compris, eh bien, cette thématique si importante pour toutes et tous, et en l'occurrence qui est celle de la vie de tous les jours. Donc « L'amour n'a pas d'âge », c'est une proposition de cette compagnie qu'on avait déjà accueillie il y a quelques saisons de cela, il n'y a pas si longtemps que ça, notamment avec « L'amour en toutes lettres ». Alors on va être un petit peu dans le même principe, la même scénographie, si j'ose dire, la même installation du public autour de petites tables et de chaises. Et on va évoquer, donc notamment avec les artistes, c'est une sorte de tête du documentaire, vous l'avez compris, on va évoquer justement la façon d'aborder la séduction et puis l'amour d'une manière générale, surtout avec sur la base notamment de récoltes de témoignages de personnes d'un certain âge, 60, 70, 80 ans notamment, qui vont évoquer avec vous justement par le biais notamment l'intermédiaire de ces artistes, eh bien leur façon de voir les choses et de ressentir les choses d'une manière tout à fait simple, un spectacle avec simplement un regard extrêmement humain, extrêmement sincère et délicat sur cette thématique très importante, et vous l'avez compris. Alors hier soir nous étions notamment à la salle des fêtes d'Infi pour évoquer ce spectacle avec déjà pas mal de monde. On vous le dit à chaque fois, n'hésitez pas à réserver vos places sur les représentations qui auront lieu donc là jusqu'à dimanche. Notamment que ce soit par le service de billetterie 03 86 93 2x09, mais bien sûr directement sur internet, vous pouvez directement, vous le savez, acheter vos places de spectacle. Je vous y invite parce que certaines des représentations sont déjà très très chargées. C'est un spectacle avec une jauge relativement réduite. Voilà, vous êtes prévenus, on vous l'aura dit. Donc ce soir, nous serons à la salle des fêtes de Villechaux à 20h. Jeudi soir à 20h, ce sera à la salle de la mairie de Saint-Sauge. Le vendredi 22 novembre à 20h, ce sera à Châteauneuf-Val-de-Bargy. Là, par exemple, il ne reste que quelques places, voire quasiment plus. La salle culturelle à l'Orme, ce sera pour le samedi 23 novembre à 20h. Et puis également, à Millet, j'aurai l'occasion de vous accueillir dimanche à 16h. Voilà pour une représentation, la dernière de cette belle lignée « L'amour n'a pas d'âge ». On poursuit avec un spectacle, en l'occurrence, qui a lieu aujourd'hui dans la version tout public. Il s'agit d'Anneaux Adultes, la compagnie des temps réels. Nous fait voyager, en l'occurrence dans le temps, avec un retour dans les années 70 et surtout 80, à l'époque où Frédéric Charpentier, qui interprète, on va dire, le rôle clé de ce spectacle, eh bien, était une enfant. Et justement, de ce regard d'enfant assez malicieux, elle posait beaucoup de questions à sa mère n'avait pas vraiment tout le temps de s'occuper d'elle, elle ne voulait pas répondre à ses questions en permanence, et puis elle relate, on va dire, un peu le quotidien qu'elle avait de cet enfant assez espiègle, au travers de questionnements, un spectacle de théâtre musical avec un musicien qui joue en direct aussi, des claviers, de la basse, qui est un super musicien, et en l'occurrence beaucoup de drôleries dans ce spectacle. Il reste encore un peu de place, on a une très belle séance à Varennes-Vauzelles ce soir, on est quasiment à 140 spectateurs, il reste encore de la place. Donc n'hésitez pas, ce sera à 18h et j'aurai l'occasion également de vous y accueillir. C'est une proposition de la saison famille. Et puis, avant de laisser notamment un petit extrait musical et d'évoquer par la suite un autre événement musical qui va arriver rapidement, c'est-à-dire le 1er décembre avec les concerts d'Hivernais, on a également bien sûr un rendez-vous important de la chanson qui a lieu cette semaine, donc c'est jeudi soir. À 20h dans la grande salle, c'est Joseph Kamel. On vous en a déjà parlé, je vous l'ai déjà largement évoqué, ce chanteur qui a pas mal fait parler de lui depuis ces dernières semaines notamment. On l'entend de plus en plus, et ben tout simplement parce qu'évidemment son talent est présent, auteur, compositeur, interprète, un artiste, on va dire, multiple et varié, en une seule personne, c'est ça qui est formidable, avec beaucoup de collaborations. On va écouter donc un extrait de son dernier album, notamment 10 mois, et on se retrouve après, bien sûr, pour parler du concert du 1er décembre, Joseph Kamel.
dis-moi où t'es. Les gens me demandent ce que tu deviens. Ça fait des mois que j'en sais rien. Dis-moi ce qu'on fait. Moi je leur dis que tu vas bien. Ça en a l'air vite loin. J'ai gardé toutes les photos qu'on avait. Quand je les revois, elles me font même plus d'effet. Je me demande si tu te surprends à les regarder de temps en temps. Et on avait plein de j'aime sur nos photos. T'en as quand même maintenant que tu les fais solo. Je vois des mecs dans tes stories. Je me demande si c'est que des amis. Dis-moi où t'es. Les gens me demandent ce que tu deviens. Ça fait des mois que j'en sais rien. Dis-moi ce qu'on fait. Moi je leur dis que tu vas bien. Ça en a l'air vu de loin. Hier je rangeais, j'ai retrouvé des fringues à toi. Rien n'a changé, ton odeur est toujours là. J'avais galéré déjà pour plus la voir sur mes draps. Je t'ai appelé, voir si t'en voulais ou pas. J'ai bugué quand j'ai entendu ta voix qui disait que t'étais pas là et qu'il fallait rappeler plus tard. Dis-moi où t'es. Les gens me demandent ce que tu te fais. Ça fait des mois que j'en sais rien. Dis-moi ce qu'on fait. Moi je leur dis que tu vas bien. Ça en a l'air vu de loin. Dis-moi. Dis-moi pourquoi tu me dis rien. Pourquoi j'en sais rien. Les gens me demandent ce que tu tiens. Ça fait des mois que j'en sais rien. Dis-moi. Dis-moi où t'es. Ce qu'on fait. Pourquoi j'en sais rien. Moi je leur dis que. Dis-moi ce qu'on fait. Ça en a l'air vu de loin. Je leur dis, j'en sais rien. Dis-moi ce qu'on fait. Dis-moi où t'es. Moi je leur dis que tu vas bien. Est-ce que tu dis que je vais bien?
Le 1er décembre prochain, dimanche 1er décembre à 17h, eh bien, nous aurons l'occasion d'accueillir dans notre grande salle l'Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais pour le concert d'hiver. Ce rendez-vous que vous connaissez par cœur toutes et tous, parce qu'en l'occurrence il a lieu chaque saison, et que chaque saison on a l'occasion justement de pouvoir accueillir bien un concert d'envergure avec des solistes au programme. Et pour parler bien sûr de ce programme, eh bien, qui de mieux placé que Dominique Baran, qui va donc diriger cet orchestre, pour parler notamment de ses artistes, de ces solistes, mais aussi des deux œuvres bien sûr qui seront au programme. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Merci d'être présent aujourd'hui à nouveau pour pouvoir parler de ce concert en l'occurrence, pour lequel on a encore de la place disponible dans cette grande salle, avec un programme c'est pas un programme de fête, mais quelque part ça y ressemble, parce que on aura une œuvre extrêmement célèbre, une autre peut-être un petit peu moins connue, mais avec deux artistes qui vont la valoriser. En l'occurrence, on va prendre ça dans l'ordre, notamment en commençant avec le grand duo concertant de Bottesini pour contrebasse, violon et orchestre. Alors c'est une œuvre que peut-être vous ne connaissez pas, mais Dominique, du coup c'est un choix qui s'est fait assez facilement, notamment par rapport aux artistes.
Oui, alors je me suis aperçu que la contrebasse n'avait jamais été mise à l'honneur de la programmation des concerts nivernais. J'ai feuilleté un petit peu depuis une vingtaine d'années, et on a eu le violon, le violoncelle, l'alto, mais jamais la contrebasse, et il me semblait injuste que ce merveilleux instrument, qui n'est pas un instrument uniquement d'accompagnement, mais qui est aussi un instrument soliste, puisse être mis en valeur. Donc j'ai cherché un petit peu dans différentes œuvres qui pouvaient mettre en valeur cet instrument, et qui plairait au public, parce que moi, mon leitmotiv, c'est toujours aussi de faire plaisir à ce public fidèle et amoureux de la musique. Une œuvre qui mettrait en valeur la contrebasse et plaisante. Et je suis tombé sur ce grand duo concertant que je connaissais, que j'avais eu l'occasion de diriger il y a déjà pratiquement une bonne trentaine d'années. Et je me suis dit, voilà, c'est l'œuvre majeure de Bottesini, même s'il a écrit deux concertos pour contrebasse, puisque Giovanni Bottesini, qui est un compositeur de l'époque de Verdi, entre autres, qui a créé Aïda de Verdi, et puisqu'il était aussi chef d'orchestre. Et je trouve que c'est l'œuvre la plus belle, pour la contrebasse notamment, et pour le violon. Donc, un couple, violon, contrebasse, et deux merveilleux artistes que je connais, Jean-François Corvézier, un habitué des concerts nivernais, qui est violon solo à l'orchestre Dijon-Bourgogne notamment, et qui a une carrière de violoniste assez extraordinaire, et puis un grand pédagogue également, et qui est un ami de longue date, et puis Yann Dubost, qui est l'étoile montante de la contrebasse au niveau du pays, de l'Hexagone, mais aussi au-delà des frontières, puisqu'il est invité régulièrement à jouer en soliste avec les plus grandes phalanges européennes notamment. Et je me suis dit, bon, il faut que je réunisse ces deux-là dans ce grand duo concertant où la contrebasse est mise autant en valeur que le violon, puisqu'il exploite des possibilités insoupçonnées de cet instrument, notamment dans les aigus, dans les harmoniques. Voilà. C'est extraordinaire, c'est vraiment une œuvre magnifique.
Voilà, c'est une œuvre à l'écoute en effet qui surprend, parce que la contrebasse, on le sait, c'est un instrument qui peut aller beaucoup dans les graves, en l'occurrence, voilà, un instrument le plus grave de la famille des cordes, et on s'attend à ce que ça bourdonne un peu, et c'est vrai qu'en écoutant l'œuvre, on est surpris justement par finalement cette. On a l'impression d'avoir un alto derrière le violon quelquefois, c'est assez étonnant, et puis on s'aperçoit de toute la tessiture de cet instrument qui est extrêmement large et qui est absolument incroyable. Alors ça le fait, comme tu le disais, ça le fait résonner d'une certaine façon. Est-ce que ce duo concertant, justement, lapsus, est-ce qu'il est construit comme un concerto ou est-ce que c'est une œuvre un peu différente?
Non, c'est une. Il n'y a pas trois mouvements, voilà, comme généralement dans les concerti classiques. C'est une œuvre en un seul tenant d'une petite vingtaine de minutes. Il n'y a pas de forme exacte. On passe sur des choses un petit peu plus rapides, avec des interventions de l'orchestre, avec un dialogue en soliste du violon et de la contrebasse, et puis des parties cantabilées accompagnées par l'orchestre. Non, c'est une œuvre du genre, on va dire, plutôt qu'un concerto.
Bottesini, on l'appelait le Paganini de la contrebasse, notamment en référence à la virtuosité de ce violoniste que l'on connaissait, Paganini, mais en lui en l'occurrence pour la contrebasse.
Tout à fait.
C'était donc un contrebassiste, un chef d'orchestre, un compositeur. Il avait une triple casquette. Et comme tu l'as dit, en effet, c'est vrai qu'il avait été choisi pour diriger notamment Aida de Verdi.
Malgré le refus de réticences, on va dire, de Verdi. Et finalement, à la fin de la création d'Aïda, de ce grand opéra, Verdi l'a félicité.
Ouais, on sait souvent que les chefs d'orchestre, en tout cas, pardon, les compositeurs qui se transforment en chefs d'orchestre, ça n'a pas toujours été des histoires très heureuses dans la musique classique. Là, en l'occurrence, ça l'a été. Cette œuvre, donc une vingtaine de minutes, elle va vous permettre aussi, notamment, d'avoir des périodes très engagées, très fortes, quelquefois un petit peu plus calmes, mais surtout d'avoir finalement, il y a quand même un lien très fort dans cette œuvre entre les deux instruments. C'est assez cohérent quand même. C'est aussi peut-être pour ça que tu l'as choisi, notamment en termes de programmation.
Ah oui, c'est un dialogue permanent, c'est des jeux instrumentaux qui se répondent et où les parties se superposent et où la contrebasse est aussi bien, autant mis en valeur que le violon. Bon, le violon, tu parlais de Paganini tout à l'heure, évidemment, on connaît tout ce répertoire virtuose du violon, mais la contrebasse un peu moins, mais là, la contrebasse sera aussi très très virtuose à travers cette pièce.
Le plus simple pour pouvoir vous donner une idée, bien, c'est justement d'écouter, avant de parler de la seconde œuvre qu'on va évoquer juste après, d'écouter notamment le début, le tout début du concerto de Bottesini. Voilà, on vous laisse deux bonnes minutes pour vous mettre dans l'atmosphère et puis vous viendrez découvrir le reste de l'œuvre. On écoute cela tout de suite. Thank you. Voilà le début de ce duo concerto. Là, c'est notamment une interprétation par le Concertgebouw, et en l'occurrence, on s'aperçoit dans cette œuvre très rapidement que la place principale n'est pas pour l'orchestre, elle est vraiment pour les deux solistes. Elle est vraiment tout de suite identifiée, et c'est de ce dont on parlait notamment. Vous allez avoir l'occasion de découvrir de manière très claire justement ces deux instruments solistes, et je crois que c'est tout ce qui en fait vraiment la beauté en l'occurrence. Voilà, donc première œuvre au programme, ce duo concertant. Et la seconde, en l'occurrence, eh bien sûr, on ne la présente plus. En tout cas, on va quand même essayer malgré tout de vous en faire connaître un petit peu plus les tenants et aboutissants. C'est la symphonie numéro 3 en mi bémol majeur de Ludwig van Beethoven, dite héroïque en l'occurrence. Alors bien sûr, toute une histoire autour de cette œuvre. C'est peut-être même, mis à part la 5e et la 9e, qui a certainement le plus marqué l'histoire de la musique classique, notamment dans cette période classique. Héroïque pour la simple et bonne raison qu'elle a été... On le sait tous, en tout cas, on en a beaucoup parlé, notamment écrit, tout du moins inspiré par un certain Napoléon Bonaparte. Et il faut savoir qu'au début, elle ne devait pas s'appeler comme ça. Elle ne devait pas s'appeler notamment la symphonie héroïque, si je ne me trompe pas, Dominique.
Oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, tu as parfaitement résumé les contours de cette symphonie et les circonstances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Beethoven était un grand admirateur de la France, et notamment de la période révolutionnaire, le fait que, voilà, on soit passé une république, et ça l'avait beaucoup interpellé, oui. Alors qu'il n'avait pas ça en Allemagne. Et un grand admirateur de Bonaparte au départ, un petit peu moins par la suite de Napoléon, parce que, bon...
Un peu comme tout le monde, hein,
je crois. Ben, voilà. Ouais. Et donc, il a voulu rendre hommage, je pense. Je pense que dès le départ, il avait ça en tête, même s'il y allait, comme on dit, sur des œufs, parce que dans un contexte où les compositeurs à l'époque écrivaient leur musique, composaient aussi pour des cours, hein, ouais, notamment. Donc il avait des obligations, donc c'est pour ça qu'il n'est pas très à l'aise. Mais il avait, dans ses mémoires, dit que dès le départ, il était quand même imprégné de la vie de Bonaparte, notamment, et qu'il a retracé à travers cette œuvre qui est la plus longue, hein, c'est la symphonie la plus longue de Beethoven sur les 9, puisqu'elle dure environ 55 minutes. Et donc, elle retrace la vie tellement riche et intense de Bonaparte.
C'est vrai. C'est aussi une œuvre qui, en tout cas, alors même si bien sûr elle est destinée à cette personnalité, retranscrit, je crois aussi un petit peu, malgré tout, une sorte de caractère non pas autobiographique, mais un petit peu d'une période aussi un petit peu compliquée, parce que on le sent notamment sur les deux premiers mouvements, où le premier mouvement très connu avec cette air, là, ce lancement dès le départ, et puis voilà, un premier mouvement assez joyeux, assez enlevé, et la marche funèbre qui arrive derrière, elle est extrêmement connue aussi. On vous passe d'ailleurs un extrait, puisque vous connaissez cette mélodie très triste qui a servi à d'innombrables mises en scène de films, etc., etc. Et donc on se retrouve très rapidement aussi confronté à une période où Beethoven, en fait, à cette époque-là, se découvre, en se rend compte qu'il devient sourd, comme tout le monde le sait. Et c'est notamment, je crois, on va dire, non pas aggravé dans ce second mouvement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est encore plus poussé, en tout cas.
Retransmis, tout à fait. Voilà, il y a un malaise. Il n'y a rien de pire pour un musicien de devenir sourd. Mais on sent les prémices de ça, de cette angoisse, oui. Parce que quand il en parle, il était angoissé, même si ses plus grandes œuvres ont été écrites à la période où sa surdité était assez profonde. Ce qui est fou, c'est assez remarquable et inexplicable. Mais dans cette marche funèbre, voilà, c'est un peu une sorte d'enterrement de sa vie avant sa surdité, je pense aussi. Et puis c'est y a tellement de profondeur et en même temps de mélancolie transmise à travers ce deuxième mouvement qui est magnifique.
Tout à fait. Donc quatre mouvements notamment, avec encore un scherzo et un final, un allegro notamment qui clôture cette symphonie. Dans cette symphonie, en l'occurrence, une des plus célèbres. Est-ce que, alors évidemment, c'est difficile à dire, mais est-ce que dans les symphonies de Beethoven, est-ce qu'il y a une évolution, on va dire, ou est-ce qu'on a dans la façon d'écrire ou de retranscrire, ou est-ce qu'on a quelque chose d'assez cohérent sur les 9?
Paradoxalement, non. Alors, on va dire que pour cette troisième symphonie, qui vient après les deux premières, qui sont de la période classique de Beethoven et d'une écriture très classique post-Mozart, post-Haydn, on va dire, hein, dans la forme. Là, on passe, avec ce scherzo, notamment dans le troisième mouvement, à une période plus moderne, où là, on rentre, on peut le dire, dans la période romantique hein, de Beethoven, puisqu'il est à cheval entre la période classique et la période romantique dans l'écriture. Et puis très révolutionnaire dans l'orchestration, notamment avec une mise en valeur du pupitre de trompette, par exemple, qui n'existait pas dans les deux précédentes symphonies. Donc là, c'est vraiment un tournant. Bon, après, la quatrième revient à quelque chose d'un peu plus classique, un peu moins révolutionnaire dans l'écriture, plus courte aussi, plus légère, on va dire. La cinquième, qu'on connaît, il y a une force aussi, avec ce fameux destin frappe à ma porte. Oui. La sixième, qui est un ode à la nature. La septième, qui est une symphonie qui est très, très, on va dire, exacerbée au niveau de la... très enjouée, au niveau de l'orchestration, très puissante, très... voilà, la huitième qui est un pont encore vers le classicisme, un retour au classicisme, et puis la neuvième qui est cette symphonie avec les chœurs, et notamment l'ode à la joie et les solistes, qui est très particulière en elle-même. Donc il n'y a pas une symphonie qui se ressemble finalement. Les premières deuxièmes, voilà, on va dire, la troisième, cette symphonie qui passe un pas dans l'écriture, un cap, exactement. Voilà, donc à chaque fois c'est différent. Et c'est ça qui fait la richesse. Et moi, je me suis dit qu'il fallait que je programme les 9 symphonies dans ma carrière de chef de l'orchestre concerné Verneuil. Je me suis mis ce challenge-là. Donc, il m'en reste 3. Enfin, avec celle-ci, il en reste 2 après. D'accord. Il restera la quatrième et puis la neuvième que j'espère... monter un jour.
Un apothéose, peut-être en dernier, justement, comme l'apothéose, voilà.
Pourquoi pas.
Une carrière, ça serait un bel hommage. Voilà. Donc, Beethoven, bien sûr, ce compositeur que vous connaissez, qui a été tellement prolifique, et puis avec une vie assez un petit peu différente peut-être des autres compositeurs, en effet, dans la façon dont il a vécu les choses. Venez retrouver toute cette force grâce à ce concert qui vous est proposé donc le 1er décembre à 17h dans notre grande salle, dont c'est une billetterie Maison de la Culture, donc dans le programme de la Maison de la Culture. Donc n'hésitez pas, vous pouvez encore réserver vos places auprès de nos services de billetterie, vous le savez, sur le site internet directement par le biais de la billetterie web. Voilà, vous êtes bien sûr les bienvenus pour découvrir eh bien ces deux œuvres. Et puis voilà, deux œuvres majeures, hein, vraiment du répertoire. En l'occurrence, c'est le plus simple aussi également, si tu le veux bien, c'est que l'on découvre justement, alors non pas peut-être l'air le plus connu, qui est le début, quasiment pim 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 pim. Bon, là tout le monde connaît cet air. C'est plutôt sur la marche funèbre, qui est très connue aussi, mais justement vraiment dans sa version d'origine. Et Dominique, juste avant de clôturer, il y aura encore d'autres rendez-vous, hein, bien sûr, à suivre, notamment au printemps. On se reverra dans l'occasion de ces concerts. Et moi, je voulais dire aussi qu'on a passé un excellent moment avec les concerts pédagogiques. En disant Pierre Leloup, on revient très rapidement dessus. C'était une chouette réussite, un concert qui avait déjà été programmé il y a plusieurs années, il y a au moins 6 ou 7 ans, et qui a connu quand même, il faut le dire, je te remercie vraiment encore, un grand succès. Quasiment 2000 personnes sur la journée, c'était absolument fou.
Ouais, avec tous ces enfants venus de tout le département, émerveillés, et une œuvre indémodable, Pierre Leloup, c'est toujours quelque chose qui réjouit les enfants et les musiciens aussi.
Voilà. Et donc à l'occasion du concert de printemps dont on reparlera plus tard, eh bien, il y aura également un concert pédagogique, là plutôt pour les plus grands, les cycles 3 et les collèges et les lycées notamment. Donc ça sera au mois de mars, on y reviendra. Merci d'être venu parler de ces deux œuvres, et puis donc on va écouter là le début de la marche funèbre. Alors gardez le sourire, même si cette marche est très très forte, découvrez toute la profondeur de Beethoven. À bientôt, Dominique.
À bientôt. Thank you.
la suite de cette œuvre, eh bien, rendez-vous le 1er décembre, comme on vous l'a dit. Vous êtes bien sur Bac FM. On va terminer cette émission avec deux rappels importants pour, non pas cette semaine, mais la semaine suivante. Alors, pourquoi vous rappeler, notamment, le premier rendez-vous qui est Ourvari de la compagnie Rasposo? Eh bien, tout simplement parce qu'il reste encore un peu de place. Le vendredi soir, le 29 novembre et le 30 novembre, sur l'esplanade du Palais Ducal sous chapiteau, le jeudi 28, c'est déjà quasiment complet. Un spectacle de cirque, notamment proposé par cette compagnie qui nous vient de Saône-et-Loire, que vous connaissez, puisqu'on avait déjà proposé le spectacle Horizon il y a 3 saisons de cela. Là, c'est un spectacle, on va dire, encore plus abordable que le précédent. Pour toute la famille, on a pu en voir quelques images notamment, la création a été assez récente et vous allez être les premiers quasiment à pouvoir découvrir ce spectacle qui va se passer donc sous un grand chapiteau, plus de 300 places sur l'esplanade du Palais Ducal, dans des conditions finalement qui nous amènent tout doucement vers les festivités de Noël, parce que on aura une ambiance assez chaleureuse dans ce chapiteau, donc un spectacle qui nous offre à découvrir toute la qualité notamment de cette compagnie, de cette famille qui exerce depuis de nombreuses années ce métier de circassien, donc avec notamment du jonglage, avec de l'équilibre, avec des diverses, on va dire, façons notamment d'amener les événements de cirque sous ce chapiteau. Donc vous n'hésitez surtout pas, il reste encore des places, et vous avez d'ailleurs un extrait vidéo du spectacle qui est présent sur notre site internet, comme ça vous allez pouvoir vous donner notamment une idée très précise de ce spectacle réalisé notamment par France 3 qui avait suivi la création. Donc 28, 29 et 30 novembre, avec vraiment une privilégiée plutôt le vendredi 29 et le samedi 30, s'il vous plaît, parce que pour le jeudi 28, on est déjà extrêmement chargé. Et puis, le rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine, évidemment, surtout que le jeudi 28, voilà, il y a déjà un autre spectacle, c'est Roberto Fonseca, qui est un pianiste de jazz émérite, que j'ai déjà eu l'occasion de voir aussi dans un festival, qui est un super artiste extrêmement généreux, mais qui en plus a cette faculté, grâce à ses origines, de pouvoir aller beaucoup plus largement que la musique jazz, puisque ses origines, elles sont à Cuba, d'origine cubaine, avec ses parents en plus dans le milieu de la musique et du spectacle. Il était baigné tout petit dedans, et il va nous proposer avec la grande diversion notamment, et donc des réadaptations avec orchestre salsa, rumba, mambo notamment, et bien des réadaptations des grands classiques de la musique cubaine. Donc vous n'hésitez surtout pas, il reste encore quelques places, il faut vraiment vous dépêcher, il reste vraiment une poignée de places, vous dépêchez d'aller sur le site internet pour réserver les dernières places disponibles, c'est jeudi 28 novembre à 20h dans la grande salle. Et pour clôturer cette émission, et bien je crois que le plus simple en effet est se mettre un petit peu plus encore de soleil que l'on a encore déjà grâce à ce qu'on a pu découvrir ce matin, un extrait de cet album spécial qu'il a fait notamment. Ça s'appelle Cuando tu bailas pa' mí. À bientôt, à mercredi prochain.
Oye, qué rico tu bailas. Como me gusta como tu bailas.